Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Pour le premier numéro de la troisième saison, je vais vous parler d'une œuvre qui a largement participé à la diffusion des mangas et de l'animation nippone auprès du public français. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Akira. Mais avant ça, je vais vous raconter comment j'ai découvert cette œuvre. À l'époque, au début des années 90, alors adolescent, j'écumais le rayon SF de la bibliothèque municipale de Quimper. Oui, il y avait un rayon SF et plutôt bien fourni, mais forcément minoritaire. Au bout de quelques années, je l'ai évidemment complètement rincé. Un samedi matin, alors que je n'avais plus rien à me mettre sous la dent, je me suis dirigé vers le rayon bande dessinée. À côté des grands classiques, il y avait quelques BD de SF, Valérian, Black et Mortimer, j'aperçois une BD d'une épaisseur peu commune. 180 pages. On est bien au-delà des 50 ou 60 pages des bandes dessinées européennes. C'est d'abord le côté pragmatique qui a parlé. Cool, beaucoup plus de lecture dans un même livre. Mais une fois que je l'ai ouvert, une révélation. Ce terme est parfois galvaudé, mais là, ce fut réellement le cas. Un univers s'ouvrait à moi. J'en étais tout à ma joie de la découverte d'un nouveau genre littéraire qu'un jour, en regardant la télé, je tombe sur cette musique. Une publicité pour un long métrage d'animation Akira. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, l'histoire d'Akira, c'est quoi ? Nous sommes en 2030 à Neo-Tokyo. Le monde se remet plus ou moins bien de la Troisième Guerre mondiale qui a démarré à Tokyo le 6 décembre 1992. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor a eu lieu un 7 décembre. Clin d'œil ? Peut-être. Toujours est-il que ce n'est pas la joie à Neo-Tokyo. La ville a renaît de ses cendres. C'est une mégalopole où s'élèvent des gratte-ciels aussi gigantesques les uns que les autres. La ville ressemble à celles qui, en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, ont été reconstruites dans un souci d'efficacité, pour pallier rapidement au problème des sans-abri. En architecture, il existe un terme pour désigner ce style de construction, le brutalisme. Le nom est riche de promesses. Dans Neo-Tokyo, on retrouve cet esprit, à savoir du béton, beaucoup de béton, et très peu d'espoir. Les 30 glorieuses de la reconstruction sont passées et l'horizon semble bétonné à l'infini. L'avenir ne semble plus vraiment radieux, la jeunesse l'a bien compris et n'en attend pas grand-chose. C'est dans une société morne que l'on retrouve nos protagonistes. Ce sont de jeunes élèves dans un centre d'insertion et d'apprentissage, là où se retrouvent ceux qui n'entrent pas dans le moule de l'éducation « classique » entre guillemets et qui se retrouvent un peu à la marge. Un peu comme... Ah non, toute ressemblance avec un système bien connu n'est qu'une coïncidence fortuite. C'est à ce moment que nous faisons la connaissance de deux des personnages principaux, Kaneda et Tetsuo. Le premier est le chef d'un gang de motards, le second un de ses lieutenants. Ils trompent leur ennui en sillonnant les anciennes autoroutes de la région de Tokyo. Pas le genre petite balade pépère entre potes, mais des courses effrénées pour savoir qui ira le plus vite, freinera le plus tard. À ce jeu, Kaneda est le plus fort. Mais Tetsuo prend tous les risques pour le battre. Et au cours d'une de ces courses, alors que Tetsuo a pris la tête, il aperçoit une silhouette dans la lumière du phare de sa moto, mais il est trop tard. Il va le percuter. Sa moto explose et le jeune homme est projeté au sol, mal en point. Kaneda arrive à temps pour voir la personne responsable de l'accident. Il s'agit d'un enfant, mais avec les traits d'une personne âgée. Kaneda a à peine le temps de comprendre ce qu'il se passe que l'enfant disparaît comme par magie, en se dissipant dans l'air. Interviennent alors les militaires qui embarquent un Tetsuo inconscient pour une destination inconnue. Le lendemain, l'équipe se retrouve au lycée et est convoquée par le proviseur pour une séance de rattrapage pédagogique.
C'est votre dernière chance. Vous n'êtes pas capable de vous maintenir au niveau des élèves moyens. Vous n'êtes pas capable de vous adapter aux conventions de la société. Si des petits malins comme vous ne s'en sortent pas dans cette institution, ils ne s'en sortiront jamais. Même si vous n'êtes pour l'instant que des jeunes de 15 ans. Si vous totalisez plus de 50 points de punition, vous serez envoyé devant un tribunal.
Tu lâches un peu, ouais.
Tu écoutes, t'es voyou ?
J'ai perdu le fil.
La ferme ! 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 Compris ?
Le soir, toujours sans nouvelles de Tetsuo, la bande de jeunes se retrouve dans leur bar habituel. Le hasard veut qu'ils y croisent un couple étrange qui semble sur la défensive. Il se trouve que les deux personnes sont des révolutionnaires et qu'ils cherchent le petit garçon qui a causé l'accident de Tetsuo la veille. Et, toujours par hasard, le garçon en question erre non loin du bar. Kaneda et son groupe lui tombent sur l'arable, bien décidés à lui demander des comptes sur l'événement de la veille. Or, le petit garçon semble disposer de pouvoir, et se sentant piégé, il en fait une démonstration spectaculaire. Sans même la toucher, il explose la vitrine auprès de laquelle il était acculé, et c'est ensuite autour de toute la façade de l'immeuble qui surplombe la vitrine qui s'effondre. L'équipe de Kaneda évite de justesse de se faire écraser par les débris, et le petit garçon disparaît une nouvelle fois. Mais il y a un autre groupe qui cherche lui aussi le petit garçon. L'armée. Tout le raffut qui vient de se produire l'attire elle aussi sur les lieux. Mais la traque pour retrouver le petit garçon ne s'arrête pas pour autant. Un des révolutionnaires arrive à le récupérer en lui disant que c'est son équipe qui l'a libéré. Sur ces entrefaites, Kaneda, qui n'a toujours aucune idée de ce qu'il se passe, les retrouve en pleine discussion, bien décidé à venger son ami. Mais déjà un premier militaire les approche et tout le monde fuit. Le petit garçon et le révolutionnaire disparaissent. Kaneda se retrouve mis en joue par le militaire et ne doit son salut qu'à la femme du couple de révolutionnaires. C'est alors une course-poursuite effrénée entre la révolutionnaire Kei, accompagnée de Kaneda, et l'homme du couple, Ryu, accompagné du petit garçon, pour échapper aux militaires qui investissent le secteur. Les quatre fuyards se retrouvent et s'enfoncent dans les égouts pour échapper à leurs poursuivants. Mais le petit garçon ne va pas bien, et son état empire de minute en minute. Alors qu'il sort des égouts, un autre jeune garçon, Masaru, les rejoint. Masaru appelle le premier garçon par son prénom, Takashi, ce qui surprend les révolutionnaires. Car eux, ils cherchent un autre garçon, Akira. Voilà que tout ce beau monde est rattrapé par les militaires qui les encerclent. Kaneda met alors en joue Takashi avec un pistolet et menace de le tuer. Menace contrecarrée par Masaru qui provoque un mini-séisme qui sème la panique et permet à Kei, Ryu et Kaneda de fuir, laissant derrière eux le pauvre Takashi aux mains de l'armée. Le lendemain, Kaneda retourne au lycée comme si de rien n'était, et à la surprise de retrouver Tetsuo fraîchement sorti de l'hôpital. Il ne semble pas avoir de séquelles de son accident, mais son comportement va changer. Il va devenir de plus en plus agressif. Lors d'une bagarre avec un gang rival, le gang des clowns, il manque de peu de tuer un adversaire. Quelques jours plus tard, le même motard que Tetsuo a failli tuer revient pour régler ses comptes, mais là Tetsuo va au bout et fait exploser le crâne du loubar, littéralement, sans même le toucher. Il semble que Tetsuo développe des pouvoirs semblables à ceux de Takashi. Il va alors se retourner contre ses anciens amis qui vont tenter de stopper sa quête meurtrière à la recherche d'un certain Akira. Je vais arrêter ici la narration de l'histoire, j'en suis à la fin du tome 2 sur 13. Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à raconter. L'histoire se raconte sur plusieurs niveaux, celle de gamins livrés à eux-mêmes, celle d'un groupe révolutionnaire aux ordres d'un politicien peu scrupuleux, celle d'un colonel de l'armée japonaise qui ne redoute qu'une seule chose, qu'on ouvre une nouvelle boîte de Pandore. Mais avant de parler d'Akira, je vais évoquer son créateur, Katsuhiro Otomo. Il est né en 1954 dans la préfecture de Miyagi au Japon. Passionné de SF et de manga, en particulier l'œuvre d'Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy, connu sous le nom d'Astro le petit robot en France. C'est logiquement qu'il se lance dans une carrière de mangaka à 19 ans. Pour info, un mangaka, c'est la personne qui écrit le manga. C'est en 1982 qu'il commence la publication d'Akira sous forme d'épisodes qui dureront pendant 9 ans. Peu prolixe sur son œuvre, Otomo dira cependant qu'il s'est inspiré d'œuvres mettant en scène une jeunesse perdue, comme dans le film La Fureur de Vivre. Est-ce alors un hasard si Kaneda est souvent affublé d'un blouson rouge, comme celui que porte James Dean dans ce film ? Ce sera dorénavant sa patte. Les anti-héros, les bad boys, les rebelles. Tetsuo en est le parfait exemple. Au début de l'histoire, il était personnage de second plan, quasiment à faire valoir. Le petit oisillon perdu est recueilli par le chef charismatique de la bande. Il est toujours en retrait, un peu maladroit, et il est traité avec beaucoup de condescendance de la part des autres membres du groupe. C'est à la faveur de son accident que sa position va changer. Le choc avec Takashi va révéler en lui des pouvoirs jusqu'alors inconnus, mais qui vont se révéler dévastateurs pour les autres et pour lui-même. Un pauvre petit garçon en quête de reconnaissance qui va utiliser ses pouvoirs pour s'imposer, mais qui vont le ronger de l'intérieur. Une sorte d'autodestruction que l'on retrouve à un autre niveau dans le manga. L'explosion qui est évoquée au début d'Akira et qui déclenche la Troisième Guerre mondiale n'est pas d'origine étrangère. Le Japon n'est pas à nouveau victime d'une déflagration cataclysmique provoquée par un autre pays. On l'apprend rapidement, il s'agit d'une expérience menée par des scientifiques qui jouent aux apprentis sorciers, qui ne maîtrisent pas du tout la puissance mise à leur disposition, et qui finalement tournent mal, c'est peu de le dire. Vous aurez compris que l'explosion qui débute le récit est une analogie à celle qui a frappé le Japon les 6 et 9 août 1945. Le Japon a l'insigne honneur d'être le seul pays à avoir subi les outrages de la bombe atomique. À deux reprises, qui plus est. Et cette particularité pèse énormément sur le pays. Les Japonais restent encore traumatisés par cet affront qui leur a été fait. L'art, et le cinéma en particulier, ont servi de catharsis avec, entre autres, Godzilla, monstre réveillé par les radiations et qui ravagera le pays. Akira également. Katsuhiro Otomo en a une vision défaitiste. Au cours d'une interview, il dira « Ce qui s'est produit à Fukushima, la contamination nucléaire, les gens déplacés, l'inanité des institutions m'a brutalement replongé dans l'univers d'Akira. Je savais déjà à l'époque que ce genre de catastrophe allait se produire. La vraie question n'est pas de savoir si cela se produira, mais plutôt quand. S'il y a autant d'explosions dévastatrices dans mes histoires, c'est parce que je suis malheureusement convaincu que tout se terminera ainsi. Ça ne respire pas la joie de vivre et les lendemains qui chantent, tout ça. Pour la petite histoire, il est né dans la préfecture du Miyagi qui jouxte celle de Fukushima. On est loin du feu purificateur annoncé par la Bible. Là, on est plutôt avec des enfants qui jouent avec des allumettes. Et descendre de l'incendie ne renaît pas une société nouvelle et prometteuse, mais un état encore plus lamentable que le précédent. Mais ce n'est pas le seul sujet abordé dans Akira. Il s'agit d'un transhumanisme bien avant l'heure et qui ne dit pas son nom. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet pour ne pas divulgâcher le manga. Je vais simplement vous dire qu'il est question d'expérimentation qui aurait pu avoir leur place dans l'esprit tordu des scientifiques du Troisième Reich. Je vous ai aussi parlé d'un film sorti en 1991. En vous présentant le manga, je vous avais parlé d'une révélation. Mais quand j'ai vu le film, le terme de « claque visuelle » serait peut-être plus approprié. Ce terme est parfois usé à toutes les sauces, mais là il prend tout son sens. Le film ne reprend pas toute l'histoire du manga, vu qu'il a été réalisé avant la fin de celui-ci. mais on y retrouve beaucoup des éléments marquants du manga. Ainsi que l'ambiance oppressante, on sent la tension sociale monter, les grèves, les manifestations, comme un parfum de révolution. Ce qui marque également, c'est le rendu visuel. En 1991, on n'est pas du tout habitué à ça. L'image est d'une fluidité. Le nombre d'images par seconde est tout simplement le double de ce qui se fait habituellement. Le souci du détail va même jusqu'à reproduire les défauts que l'on trouve dans un film dit classique. Des lumières qui laissent des traces sur la pellicule, des aberrations visuelles lors des gros changements de lumière. L'exploit est d'autant plus remarquable quand on sait qu'à l'époque, tout se fait à la main. Ça demandera la réalisation de 160 000 celluloïdes. Un celluloïde est une feuille de plastique transparente sur laquelle on peint tout ce qui sera visible à l'écran. Et il en faut 24 par seconde. Un travail de titan. Le petit plus d'un film d'animation, c'est que les images bougent. Logique, vous me direz. Mais quand le matériau de base offre déjà une violence graphique, c'est un euphémisme pour dire que c'est gore. La dureté du propos frappe d'autant plus dans un film. Je défie quiconque de ne pas se sentir, ne serait-ce qu'un peu mal à l'aise lors de la scène finale dans le stade. Petite anecdote, dans le film, les dates changent un peu et l'action du film se situe en 2019 alors que Tokyo galère à préparer les futurs Jeux Olympiques de 2020. Comme quoi, dans l'anticipation, on ne se trompe pas toujours. Akira aura beaucoup marqué la culture populaire. Le film Chronicles de Josh Trank, sorti en 2012, fait beaucoup penser à ce qui arrive à Tetsuo. En 2018, c'est Steven Spielberg qui rend hommage à l'œuvre d'Otomo en mettant en avant la magnifique moto rouge de Kaneda dans son film Ready Player One. Le meilleur hommage sera peut-être celui de Kanye West qui, dans le clip Stronger en collaboration avec Daft Punk, en fera quasiment une adaptation live. Jalon dans le monde de la SF, l'œuvre de Katsuhiro Otomo n'est pas franchement positive. Elle ne respire pas les lendemains joyeux. Fataliste dans son approche, il pense que le monde court gentiment à sa perte et qu'il finira dans une grosse explosion. Il signera une œuvre majeure qui heureusement franchira les frontières du Japon. Il a tout simplement voulu dépeindre le monde qu'il avait devant les yeux et comment il le voyait évoluer. En cela, il rejoint Albert Camus qui, le 8 août 1945, écrira dans le journal Combat « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche entre le suicide collectif et l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. » Moralement plombante mais visuellement très riche, son œuvre est devenue une référence et peut-être nous servira-t-elle de signal d'alarme. N'est-ce pas finalement le but de l'art, de nous faire réagir, et de l'ASF, nous faire réfléchir? Avant de vous quitter, je voudrais vous parler d'un événement qui aura lieu en novembre à Quimper, le Finistère. Et pour vous expliquer de quoi il est question, je reçois Guillaume, président de l'association La 29e Dimension, qui co-organise le Finistère.
C'est ça, Rémi. Bonjour, Rémi. Effectivement, nous sommes là donc pour discuter du festival Finistère, premier festival des littératures de l'imaginaire, donc science-fiction, fantastique, fantasy, organisé à Quimper. Donc, tu te trompes pas dans les dates, c'est bien les 13 et 14 novembre 2021 au Centre des Abeilles, donc 4 rue Sergent Le Flahaut, à Quimper. Ça dure l'espace d'un week-end où plusieurs auteurs en dédicace, des expositions, l'association À nous de jouer de Tours dans le côté de Corée qui participera avec des jeux de rôle, jeux de société. Et donc, pour les horaires, ça commence le samedi, donc le samedi 13 novembre, de 14h à 18h. et ça reprend le dimanche 14 de 10h à 18h. Faut savoir aussi donc il y aura 5 tables rondes de prévues autour des univers des auteurs invités. Voilà en gros la présentation de base.
D'accord. Il me semble qu'il y aura 17 auteurs présents.
Oui. Oui, oui. Est-ce que tu veux qu'on parle des différents autrices et auteurs invités?
Oui, si on peut faire un tour rapide pour présenter un peu les styles qu'on pourra trouver.
Oui, donc Florence Desclos avec Merveilleuse Chimère, un polar steampunk fantastique. Mmh. Julien Laoche avec plus dans l'anticipation avec des novellas, enfin les romans Ama et Saturne. Jean-Christophe Gabdi qui lui vient de Carpentras mais qui est adhérent à l'association depuis le début. Mmh. Qui est lui dans une œuvre de space opéra. Nicolas Skinner avec qui mélange, enfin qui propose des récits fantastiques et de SF, notamment Chimera. Charlotte Bonnat bien sûr, hein, la trilogie Avancel qui nous suit aussi depuis le début. Mmh. Henri Blumven, qui est aussi brestois comme Charlotte, qu'on va découvrir. Myriam Cayono, qui habite dans le Nord Finistère, qui propose également du space opéra. Audrey J. Forest, qui vit à Vannes et qui est plus dans le fantastique avec Moonlight Shadow. Guylain Fernandez, qui est du côté de Combrite, qui lui est auteur jeunesse, qui possède un univers très à part, bien à lui et très sympathique à découvrir. Et Jérôme Nedelec qui est plus dans le mélange des genres avec histoire fantastique et qui a fait beaucoup de recherches sur les Vikings. Et dans ses récits, on apprend que les Vikings sont dans un lointain passé, les Vikings sont arrivés jusqu'en Bretagne.
Ah oui.
Et donc lui, c'est le Il est organisateur des Mystériales de Redon.
D'accord.
Voilà, à peu près. Et il y en a beaucoup d'autres hein, à découvrir.
Et majoritairement des auteurs bretons ou localisés à Bretagne.
Oui, c'est un peu l'idée du festival. C'est inspiré donc de la récente crise sanitaire où on s'est rendu compte que le local, c'était une valeur sûre quand on était soumis à diverses contraintes et notamment les confinements, et que si on voulait en fait avoir un semblant de la vie d'avant, le local était vraiment une aide. Et on s'est, en préparant cet événement, on s'est dit pourquoi ne pas faire la même chose dans les domaines de l'imaginaire, à savoir inviter des auteurs locaux qui vivent donc dans le Finistère et plus majoritairement en Bretagne et au-delà. Et les réunir l'espace d'un week-end et décider en fait et discuter de toute de leur inspiration, de leur imagination, de tout ce qui de tout ce cheminement qui font que ils nous proposent des textes d'imaginaire.
D'accord. Et est-ce voilà. qu'il y a sur internet un endroit où on peut retrouver toutes les informations sur le Finistère?
Alors, il y a beaucoup d'informations sur le site internet de la 29e dimension. Mmh. Donc, c'est l'association qui co-organise cet événement avec le Centre des Abeilles, hein, dans une D'accord. grande majorité. Ensuite, il y a la page Facebook de l'événement, donc Festival Finistère, qui commence en fait à être alimentée de portraits des auteurs. Donc, si les gens en fait veulent connaître, enfin sont intéressés par l'événement et veulent découvrir les auteurs avant de venir, ils peuvent aller sur la page Facebook ou sur le site internet et les portraits d'auteurs sont accessibles. Quoi. Donc avec plein de liens vers leur site, leur page Facebook. Enfin ça c'est vraiment une toile. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'on y retrouvera aussi les infos pratiques sur le
Oui. Sur le site, oui, il y a les infos pratiques, le programme aussi par rapport aux tables rondes.
D'accord.
Et qui sera aussi partagé prochainement sur la page Facebook de l'événement.
D'accord. Question de traditionnel maintenant, on va dire, vu l'époque, pass sanitaire.
Oui, le pass sanitaire sera obligatoire et contrôlé.
D'accord.
Voilà.
Ok. Guillaume Volant, merci pour toutes ces informations. Et donc, je vous donne
rendez-vous. Merci pour ton invitation.
Le 13 novembre à partir de 14h.
Voilà.
Très bien. Merci.
Merci Rémi.
Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. So how the hell could you front on me? It's 1,000 U's, it's only one of me. I'm trippin', I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night. So we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike. Well, I'll do anything for a blind. And she'll do anything for the limelight. And we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it. Oh, that don't kill me. Can only make me strong.